Radio Prague, les informations.
L'ancien dissident Jiří Dienstbier dément toute collaboration avec les services secrets communistes. La Poste tchèque révolutionne son système de timbre postal. Et puis, en hockey sur glace, nouveau sélectionneur pour l'équipe nationale tchèque. Les informations vous sont présentées par Alexis Rosenzweig et on commence donc avec le sénateur du Parti social-démocrate, Jiří Dienstbier, qui aurait été un informateur des services militaires de contre-espionnage, selon des archives retrouvées par la radio publique tchèque. D'après ces documents, Jiří Dienstbier aurait collaboré à partir de 1962 sous le nom de code de conférencier lors de ses déplacements à l'étranger, en tant à l'époque correspondant de la radio tchécoslovaque. L'ancien ministre des Affaires étrangères, après la révolution de velours, a démenti ces informations, les qualifiant de bêtises. Rappelons qu'après l'écrasement du printemps de Prague, Jiří Dienstbier faisait partie du cercle rapproché du dissident, devenu par la suite président, Václav Havel. La Poste tchèque prépare une petite révolution dans son système d'impression et d'émission de timbres. À partir de ce mercredi, sont en effet mis en vente 3 différents types de timbres. Ceux-ci ne comporteront plus seulement leur valeur de base, mais également une lettre qui indiquera pour quelle destination ils peuvent être utilisés. Ainsi, la lettre A figurera sur les timbres servant à envoyer une lettre en République tchèque, la lettre E sur les timbres pour les lettres envoyées dans les pays européens, et la lettre Z pour les lettres destinées aux autres pays du monde. Par ailleurs, les nouveaux timbres seront autocollants, il ne sera donc plus nécessaire de les lécher avant de les coller sur l'enveloppe. Enfin, la règle selon laquelle le président de la République est la seule personnalité vivante pouvant figurer sur un timbre sera supprimée. Culture, le tableau « Le reste de la nuit » de la peintre tchèque surréaliste Toyin a été vendu aux enchères pour la somme de 13,2 millions de couronnes, plus d'un demi-million d'euros. C'était ce week-end à Prague. Il s'agit du 7e montant le plus élevé jamais atteint lors d'une mise aux enchères en République tchèque. Le tableau « Le reste de la nuit » a été peint en 1934 et il a été exposé pour la dernière fois dans les années 60. Née à Prague en 1902 et morte à Paris en 1980, Toyin fait partie des artistes dont les œuvres sont vendues au prix les plus élevés lors de leur mise aux enchères. Passe au sport, je vous le disais en titre, avec du hockey sur glace et la nomination d'Alois Adamčík à la tête de la sélection tchèque. Adamčík était déjà le sélectionneur national entre 2005 et 2008 et remplace à ce poste Vladimír Růžička. Principal objectif à court terme, les championnats du monde de hockey sur glace qui commencent dans moins de 2 semaines. Ce sera cette année en Allemagne. Un ciel couvert et des températures un petit peu en baisse, comprises entre 15 et 19 degrés Celsius ce mardi, jour de fête des Yaroslavs. Ce sont les prévisions pour la météo. Et moi, je vous quitte. Alexis Rosenzweig au micro. Vous retrouvez dans un instant Anne-Claire Veluire en direct et en grande forme pour la suite du programme en français de Radio Prague.
Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de ces premiers faits et événements de la semaine, nous parlerons des compagnies aériennes tchèques qui font leur compte après une semaine de paralysie aérienne et plusieurs jours de perturbations. Elles déplorent plusieurs dizaines de milliers d'euros de pertes. Jarka Gisubelova nous présentera une nouvelle réglementation qui devrait permettre aux écoliers tchèques d'apprendre à écrire avec une nouvelle écriture, une écriture plus simple, intitulée Comenia. Et nous terminerons la première partie de ce programme avec un entretien avec l'artiste tchèque Karel Zlin, avant de continuer comme tous les lundis avec le sport et la musique. Merci de rester à l'écoute de cette émission. Quel le plaisir de vous présenter Anne-Claire Veluire. Une semaine après la réouverture de l'aéroport de Prague-Ruzyně, le trafic aérien en République tchèque a plus ou moins repris son cours normal. Néanmoins, c'est l'heure des comptes pour les compagnies aériennes qui déplorent des pertes de plusieurs centaines de millions de couronnes. Il était difficile d'imaginer que l'éruption d'un volcan en Islande allait avoir autant de conséquences sur l'économie du secteur aérien en Europe et dans le monde. Une semaine de paralysie forcée dans les aéroports où les compagnies aériennes voyaient leurs avions cloués au sol ont entraîné des pertes pertes estimées à 1,72 milliard d'euros selon l'Organisation mondiale du tourisme pour l'ensemble du secteur touristique européen. Pour les compagnies aériennes tchèques, le montant des pertes comptabilisées pourrait s'élever à 300 millions de couronnes, soit presque 12 millions d'euros. Miroslav Dvorak est PDG de Czech Airlines, la plus importante compagnie aérienne tchèque, et directeur général de l'aéroport de la capitale tchèque.
Actuellement, nous pouvons parler de plusieurs dizaines de millions de couronnes par jour. Pour CSA, ce montant dépasse les 100 millions de couronnes et correspond plutôt à 150 millions. Pour l'aéroport de Prague, les manques à gagner doivent être soulignés et il semble que ces pertes devraient dépasser les 50 millions de couronnes.
Le contrôle de la navigation aérienne déplore quant à lui des pertes de 30 millions de couronnes, mais c'est la compagnie Travel Service qui semble avoir été la plus touchée, estimant ses dommages à 73,5 millions de couronnes. Non seulement une partie de ses activités est encore bloquée, puisqu'elle assure des liaisons avec la capitale islandaise, dont les deux aéroports sont encore fermés, mais elle craint des répercussions sur le long terme. Vladka Duvková est la porte-parole de Travel Service.
Il y a des incertitudes et des hésitations de la part des voyageurs, car dans le système de réservation, on observe une baisse d'environ 35%.
Les compagnies aériennes n'envisagent pourtant pas encore de demander de l'aide à l'État, comme l'explique le patron de CSA, Miroslav Dvorak.
Pour l'instant, nous ne pensons pas à demander de l'aide. Pour l'instant, nous essayons de résoudre les problèmes principaux qui sont la direction et les stratégies de Czech Airlines pour les trois prochaines années. Il est clair que ce qui est arrivé est très fâcheux, d'autant plus qu'en ce début d'année, nous avions compensé le déclin de l'année 2009. Les chiffres étaient très optimistes. Mais pour l'instant, nous ne pensons pas à demander de l'aide car nous allons attendre de voir de quoi auront l'air les chiffres globaux.
Une position qui convient au vice-ministre des Finances, Bohdan Hajduk, qui estime également que des mesures de compensation sont encore prématurées. L'Islande est aujourd'hui le dernier pays européen à avoir son espace aérien fermé. L'éruption du volcan Eyjafjöll, qui a semé la pagaille dans le ciel européen pendant plus d'une semaine, s'est beaucoup affaiblie, mais les vulcanologues restent vigilants, craignant que cette éruption n'entraîne celle du Katla, le volcan voisin le plus important. Une petite révolution attend une cinquantaine d'écoles primaires tchèques qui vont vérifier dans la pratique le nouveau type d'écriture baptisé Komenia Script, un compromis entre l'écriture script et l'écriture cursive. Jarka Gisubelova.
Hendrik Kitzberger, vice-ministre de l'Éducation nationale, est le garant du projet avec la faculté pédagogique de l'Université Charles.
La nouvelle écriture paraît plus simple, plus facile, plus ouverte aux gauchers et aux enfants qui ont des problèmes pour apprendre à écrire, comme par exemple les dysgraphiques. Elle paraît aussi plus pratique au regard de son utilisation dans la vie.
L'écriture attachée tchèque avec ses parties liées, ses sinuosités, ses arcos qui lui sont propres est sans doute l'une des plus difficiles à apprendre, ce qui était aussi l'un des arguments des auteurs de Komenia Script. Or, leur premier argument était que les enfants n'ont pratiquement plus d'occasion de lire l'écriture cursive. La majorité de textes aujourd'hui, ce sont des textes script écrits sur ordinateur. Apprendre à écrire demande beaucoup de temps. Et tout cela devrait dorénavant être simplifié, souligne Radana Lencová, auteur de Komenia Script. Apprendre la nouvelle écriture script sera plus facile pour les enfants et la tâche sera plus facile aussi pour leurs parents. Il me semble qu'il y aura moins de peine et de tracas lors de ce processus, je l'espère. La nouvelle écriture baptisée du nom du grand pédagogue Tchekomenius est le résultat des recherches de plusieurs années dans le domaine de l'ergonomie de la lecture et de l'écriture et de leur évolution. Ses formes, ses proportions et ses qualités esthétiques sont conçues pour éliminer la fatigue des yeux et améliorer la présentation de l'ensemble de documents écrits dont les enfants se servent à l'école, constatent dans le rapport les auteurs de l'écriture. Pour eux, la meilleure présentation des manuels influera positivement sur la formation de la perception esthétique et sur le rapport avec la lecture. D'après Radka Vildová, doyenne de la faculté de pédagogie de l'Université Charles, la nouvelle tendance est une tendance de 21e siècle et on peut l'observer dans de nombreux pays. En regardant les modèles d'écriture script européens, ils sont tous très proches de Comenia Script. L'actuelle écriture attachée que les enfants apprennent à l'école remonte à 1932, date à laquelle de nouveaux caractères, toujours utilisés de nos jours, ont été codifiés. Le test de la nouvelle écriture Comenia Script commence dans des écoles tchèques choisies au mois de septembre prochain, mais d'ores et déjà, la version est disponible dans sa forme électronique sur Internet.
À partir du 1er mai jusqu'au 5 septembre, la galerie Halèche, en Bohême du Sud, propose une grande rétrospective du travail de l'artiste français d'origine tchèque, Karel Zlín. Karel Zlín est le pseudonyme de Karel Machalek, né dans la ville de Batia, Zlín, en 1937. Parti en France en 1976, il y a réalisé notamment deux sculptures monumentales en bronze installées dans le parc du château de Rambouillet, commande du ministère de la Culture sous le deuxième septennat de François Mitterrand. Conjointement à la rétrospective sort dans le même temps une grande monographie. Karel Zlín est au micro d'Anna Kubista.
Cette rétrospective va montrer l'éventail de mon travail, pas seulement la peinture, les tableaux, mais aussi mes affiches, couvertures de livres. Et bien sûr, il y a aussi un chapitre concernant de mes livres, parce que j'ai édité plusieurs livres à Prague, quelques-unes aussi à Paris.
Des livres de poésie?
Aussi quelques sculptures en bronze, mais malheureusement mes grandes pièces qui sont assez lourdes parce qu'elles pèsent plusieurs tonnes, je ne peux pas les déplacer.
On précise quand même, parce que là vous dites que vous ne pouvez pas les déplacer jusqu'à Prague, mais cette galerie ne se trouve pas à Prague, elle se trouve dans Bohême du Sud, dans quelle ville?
C'est une ville qui s'appelle Hluboká, c'est 10 km depuis České Budějovice. C'est au château de Schwarzenberg. Un château dans un style néo-gothique.
Alors c'est intéressant finalement parce que vos œuvres qui sont inspirées de l'Antiquité, de ces temps anciens, vont se retrouver finalement dans un décor néo-gothique, même pas du vrai gothique.
Oui, en tout cas, même si j'ai peut-être un jour honneur exposé à Prague, je vais me certainement retrouver dans un bâtiment ancien parce que Prague c'est une ville. Et pour moi, c'est toujours très intéressant, pas seulement pour moi, je suppose que pour beaucoup de peintres, faire cette rapproche, cette exposer dans les lieux nobles et anciens, la peinture contemporaine, c'est toujours très intéressant. J'aime beaucoup aussi les galeries dans un bâtiment moderne, mais c'est aussi charmant, c'est aussi très intéressant. On ne trouve pas souvent les places suffisamment grandes pour faire une rétrospective.
Quand on pense rétrospective, on pense également réflexion sur une œuvre, hein, réflexion sur un passé, sur l'œuvre d'une vie aussi. Comme vous disiez, votre rétrospective embrasse en gros toute votre création, qu'elle soit écrite de sculpture, de peinture. Quand vous réfléchissez à toutes ces années de création, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en premier ?
C'est assez curieux pour quelqu'un qui a vécu longtemps dans un espace clos, comme par exemple la République tchèque, à l'époque plutôt la République tchécoslovaque, se déplacer quelque part dans une métropole qui respire d'une manière complètement différente, parce que à Prague, bien sûr, nous avons eu beaucoup des amis, nous avons organisé les expositions, mais je me souviens que c'était assez spécial et un peu hermétique par rapport de la peinture, comme on dit, dans un monde libre. Je pense que pour quelqu'un qui a vécu à Prague, changer une esthétique qu'on a considéré à l'époque comme quelque chose très élaboré, très pragoise. Quand on se retrouve quelque part dehors, tout à coup, on commence à comprendre que le monde doit faire le grand effort pour déchiffrer ces tableaux qui sont un peu créés dans les esprits d'enfermement, comme Kafka qui a vécu à Prague, qui a eu beaucoup de difficultés à sortir, même si à l'époque c'était plus possible. Pour quelqu'un qui quitte cette ville, il doit trouver les choses un tout petit peu différemment, où le monde est tellement différent qu'on doit un peu changer le modus vivendi, fonctionner un tout petit peu différemment.
Voilà, c'était les faits et les événements de ce lundi 26 avril. Tout de suite, la rubrique sportive de Guillaume Narguet, une rubrique cette semaine très féminine avec la basketteuse française Sandra Le Drian et malheureusement une grosse déception en tennis féminin.
Sport en République tchèque. Guillaume Narguet.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de cette nouvelle rubrique sportive dans laquelle il sera exclusivement question de sport féminin. En tennis tout d'abord, la République tchèque ne s'est pas qualifiée pour la finale de la Fed Cup, sévèrement battue 5-0 par les tenantes du titre italiennes. Les Tchèques ne disputeront donc pas leur première finale dans la compétition depuis 1988. Et puis une des meilleures joueuses de l'histoire du basket féminin français, Sandra Le Drian, a disputé le dernier match de sa riche carrière samedi à Prague. Une dernière un peu triste puisque l'USK Prague a perdu la quatrième manche de la finale et ainsi abandonné à Brno son titre de champion de République tchèque. Nous avons rencontré Sandra Le Drian à l'issue du match. Nous l'entendrons dans la seconde partie de ce magazine. Elles sont décidément bien loin, ces années 1980, lorsque la Tchécoslovaquie alignait les finales et les victoires dans ce qui était alors encore appelé la Coupe de la Fédération. Entre 1983 et 1988, Anna Mandlíková et Elena Suková notamment, puis Anna Novotná, ont en effet disputé 5 finales et remporté 4 fois une épreuve considérée comme l'équivalent féminin de la Coupe Davis. Mais depuis ce dernier succès en 1988, les Tchèques ne sont plus jamais parvenus en finale de la Fed Cup. Ce ne sera pas le cas non plus cette année, puisque les Tchèques ont été nettement battus par l'Italie 5-0 en demi-finale sur la terre battue de Rome samedi et dimanche. Plus décevant encore, en 4 matchs de simple et un autre de double disputés face aux tenantes du titre, les Tchèques n'ont pas remporté le moindre set face aux spécialistes de terre battue que sont Flavia Pennetta et Francesca Schiavone, respectivement 15e et 17e meilleures joueuses mondiales actuelles. Les deux Lutsie, Radetska et Šafářová et Petra Kvitová, soit les 3 joueuses alignées dans les matchs de simple, n'ont tout simplement pas fait le poids, comme l'a reconnu leur capitaine Petr Pala.
Porážka 5-0 není příjemná, dostali jsme trošku lekci z Antukové hry.
Perdre 5-0 n'est vraiment pas très agréable, mais nous avons pris une leçon de tennis sur terre battue. Nous avons vu comment bien jouer et comment bien se déplacer sur cette surface. On s'attendait à ce que les Italiennes jouent à leur niveau, et c'est ce qu'elles ont fait, puisque même leur 3e joueuse est mieux classée que notre meilleure joueuse. Je pense quand même qu'on aurait pu leur compliquer un peu plus la tâche, mais il aurait fallu que toutes nos joueuses soient à leur meilleur niveau pour que les matchs soient plus équilibrés.
Pour la deuxième année consécutive, les Tchèques ont donc échoué en demi-finale de la Fed Cup. En 2009, elles avaient cependant été éliminées par les États-Unis après avoir laissé passer une balle de match dans le double décisif. Cette fois, elles quittent la compétition avec nettement moins de regrets, mais comme l'année dernière, c'est de nouveau devant leur poste de télévision qu'elles regarderont la finale et la revanche entre l'Italie et les États-Unis. Et puis on passe au basket. Sandra Le Dréan, qui possède un des plus beaux palmarès du basket féminin français, a donc disputé le dernier match de sa carrière samedi à Prague, à l'occasion de la 4e manche de la finale du championnat de République tchèque. Une triste dernière, puisque l'équipe dont elle est la capitaine, l'USK Prague, a été battue par Brno 83-69 et a donc perdu la série en subissant sa 3e défaite. Brno a ainsi récupéré le titre de champion que les Moraves avaient abandonné la saison dernière aux Pragoises pour la première fois depuis 13 ans. À l'issue du match, c'est une Sandra Le Dréan forcément déçue, mais aussi très émue, qui s'est exprimée au micro de Radio Prague.
Alors Sandra, c'est toujours décevant forcément de perdre une finale. Ça l'est d'autant plus quand on a le sentiment que vous êtes passé un peu à côté du match aujourd'hui.
Oui, je crois que ce soir, on mérite pas du tout de gagner de toute façon. Donc évidemment, c'est une grosse déception. On a fait un très bon match mercredi dernier et puis là on n'a pas réussi à reproduire le même match donc voilà, on leur a laissé beaucoup trop de possibilités de panier facile, de rebonds, des petites balles que normalement on doit récupérer donc c'est un petit peu décevant surtout de perdre comme ça parce que je crois que ça reflète pas vraiment le niveau des deux équipes quoi. Enfin le niveau de notre équipe par rapport à Brno.
On avait le sentiment aujourd'hui que les paniers faciles vous les ratiez, tous les rebonds étaient pour Brno, que tout ce que vous entrepreniez était voué un peu à l'échec. Vous aviez aussi ce sentiment d'impuissance sur le terrain?
Ouais, complètement. Dès les premières minutes, en plus, je crois qu'en plus on n'a pas du tout su réagir. On a été très très fébrile, alors je ne sais pas si c'est de la nervosité par rapport à un match où on n'a plus le choix, il faut absolument gagner. D'un autre côté, mercredi dernier, on était aussi dos au mur et on a très bien réagi. Donc je ne l'explique pas trop, c'est un petit peu compliqué. Voilà, je crois que de toute façon, maintenant la saison est terminée, il n'y a plus beaucoup de questions à se poser. Je crois que voilà, c'est fini.
Même si le sentiment de déception est important aujourd'hui, ne l'est-il pas plus par rapport aux deux premiers matchs que vous aviez perdus et qui étaient dans vos cordes, où ça s'est joué sur pas grand-chose et à chaque fois en fin de match?
Ouais, c'est sûr. Je crois qu'encore une fois, le match d'aujourd'hui ne reflète pas du tout le niveau de notre équipe par rapport à Brno. On a été capable de faire de vraiment de belles performances contre cette belle équipe quand même qui a encore fait un parcours extraordinaire en Euroleague et qui a vraiment des joueuses de talent. Donc oui, forcément des regrets, surtout après une finale perdue, mais bon, c'est la vie.
Aujourd'hui, la saison se finit. Alors vous avez certes remporté la Coupe nationale, la Coupe de République tchèque. En revanche, vous avez échoué dès les huitièmes de finale en Euroleague, alors que vous aviez des objectifs un peu plus élevés. Mmh. Et puis par rapport à la saison dernière, vous avez perdu votre titre de champion. Alors quel est le sentiment par rapport à l'ensemble de la saison?
Très mitigé, c'est sûr. Alors forcément, la Coupe tchèque rattrape un petit peu le reste, mais c'est sûr que je pense que avec le groupe qu'on avait et l'équipe qu'on avait, les objectifs ne sont pas remplis. C'est dommage. Que dire de plus?
Alors, on sait aussi que c'était votre dernier match. Comment l'avez-vous vécu? Comment aborde-t-on un tel moment?
J'ai essayé de pas trop y réfléchir, en fait. J'ai essayé vraiment, je voulais mettre ça de côté pour pas être émotionnellement trop perturbée. Et donc, j'y ai pas du tout pensé. Alors, forcément, les dernières minutes, quand c'est terminé, voilà, on y pense. Et puis voilà, c'est tout plein d'émotions. Ça fait 15 ans que je suis sur les terrains, donc voilà. Mais d'un autre côté, c'est une page qui se tourne. Et puis, je suis sûre qu'il y a plein de belles choses qui m'attendent.
Et vous en saurez plus sur ce qui attend Sandra Le Dréan dans sa nouvelle vie sans basket dans une prochaine rubrique sportive. Nous vous proposerons un entretien bilan de ces 4 saisons passées à Prague.
Voilà, et on termine cette première émission de la semaine, comme d'habitude, en musique.
Un peu de musique quand même. Václav Richter.
Le jeudi 22 avril dernier a eu lieu dans la grande salle de Rudolfinum à Prague un concert de l'Orchestre Philharmonique Tchèque. Au programme a été entre autres le concerto pour violon de Jean Sibelius. L'œuvre, considérée comme une des plus difficiles de son genre, a été interprétée avec brio par le jeune violoniste Josef Špaček. Son succès a été triomphal et le jeune musicien a démontré une fois de plus qu'il est un grand espoir de l'art d'interprétation tchèque. Né en 1986 dans la ville de Třebíč en Moravie dans une famille de musiciens, Josef Špaček a pris le violon en main pour la première fois, comme il dit, déjà à l'âge de 2 ou 3 ans. Et à l'âge de 6 ans, il a commencé à le travailler sérieusement. Ses professeurs de violon, Hanna Metelková, Pavel Prantl et Jaroslav Foltin au conservatoire de Prague, l'ont aidé à développer son talent. Et déjà en 2004, il a été admis à l'Institut de musique Curtis à Philadelphie aux États-Unis, lauréat de plusieurs concours internationaux. Le jeune violoniste est aujourd'hui soliste de l'Orchestre Philharmonique Tchèque et il poursuit simultanément ses études aux États-Unis. Il a déjà sur son compte des concerts avec des formations prestigieuses, dont l'Orchestre de Philadelphie. Il s'est produit dans beaucoup de pays et aime jouer aussi dans des formations de musique de chambre. En 2006, Josef Špaček a lancé son premier album. Il s'agit d'un enregistrement de l'intégrale de 6 sonates pour violon solo d'Eugène Ysaÿe. « Je pense que la musique est ce qu'il y a de meilleur dans ma vie », dit le jeune violoniste.
Voilà, c'est la fin de ce programme quotidien d'actualité tchèque en français. Retrouvez toutes nos émissions sur le www.radio.cz ou demain, même heure, même fréquence, Zatim Ahoy.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz, at 1030 hours on 9880 kHz. At 1300 hours on 11600 kHz, at 1600 hours on 9740 kHz, at 1700 hours on 9740 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Central and Western Africa can tune in at 2130 hours UTC on 9410 kHz. In the Near East and Middle East, you can listen at 0900 hours UTC on 17650 kHz and at 0330 hours on 9445 kHz. You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio.